put those boys in a trance. When she starts to take that thing, sweet death bear is thy sting. And it's just a nervous wreck, watching Uncle stretch his neck. Shake it, break it, keep in time. Watch out.
Oh, shit. Here we go again.
Gaming.
Bandicoot power!
Et politique.
Do a barrel roll!
Welcome to the jungle.
Gaming et politique.
C'est là où je dois pas parler du coup.
Oh what a brat.
J'ai fait exprès cette fois. Parce que la dernière fois, je me suis empêchée. Là, je fais exprès. Bon, voilà, brati brat. Il faut bien que le login running gag revienne un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Gaming et politique. Alors, nous sommes avec Mélie Noé, une invitée spéciale de l'émission. Myriam.
Salut.
Adri.
Bonjour.
Et moi, Alex. Voilà.
Et Marie à la technique.
Et Marie à la technique, bien sûr, on ne l'oublie pas, il ne faut jamais qu'on
l'oublie. Coucou Marie.
Non, parce qu'on l'oublie tout le temps. Mais alors.
Oui. Mais oui. Donc, cette émission, on a des petites chroniques, des petites choses à dire, des actus, des petites questions, débats, et surtout une invitée spéciale, Mélie Noé.
Qui est descendue de Paris pour venir nous voir. Merci beaucoup, Mélie Noé.
Merci à vous.
Est-ce que je peux te présenter un petit peu, peut-être, pour commencer ?
Allons-y.
Donc, tu as étudié en sciences de l'information et de la communication à Paris 8.
Tout à fait.
Dirigée, entre autres, par Mehdi Derfoufi.
Ouais.
Qu'on connaît bien, j'allais le dire, mais oui, on le connaît bien, il nous a beaucoup aidé, il a beaucoup pris la parole dans cette émission. Et ton mémoire s'intitule « Outils masculins, devenir féminin, rôle et fonction de la pratique des jeux vidéo dans les parcours de vie de femmes trans ». Et bon, quand j'ai vu l'intitulé de ton mémoire, moi j'ai tout de suite eu envie de te contacter et de te faire venir ici de toute évidence parce que c'est des choses qu'on a pu aborder, en tout cas dans divers épisodes, notamment autour de le fait que la technologie du vidéo a été créée et pensée quand même pour un public masculin. Et toi, dans ton travail, grâce à ton travail, on peut apprendre que malgré cette technologie a priori masculine, ou en tout cas destinée à ce public-là, la pratique du jeu vidéo a pu offrir des rôles et des fonctions au sein de parcours de transition transféminine. Et ce mémoire, donc du coup ce sujet que je trouve personnellement passionnant, ce mémoire a eu le prix du mémoire de l'Institut du genre en 2024, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est 6 lauréats et lauréates en effet.
Sur les 6 lauréats, voilà, donc tu fais partie des 6 lauréats du prix du mémoire de l'Institut du genre. Et on a pu se demander ici, autour de différents sujets, dans d'autres émissions, quelle est la place des personnes queer dans la pratique vidéoludique, et surtout comment trouvent-ils leur place dans ce milieu-là. On a parlé avec Alex, tu te rappelles, de l'association GLAAD qui avait donné quelques données scientifiques récemment, et notamment sur le besoin salvateur de représentation auquel s'identifier, et le soulagement que cela procure chez les joueuses queer notamment. Et pourtant, à contrario de ce besoin, la quasi inexistence en fait de représentation queer dans les jeux vidéo, qui n'offre que très peu de personnages auxquels s'identifier. Mais malgré cela, on avait appris que c'est plus d'une joueuse sur cinq qui s'identifie comme queer, ce qui est conséquent, ce qui est très très conséquent. Et alors, ce que je voudrais te poser comme question déjà, c'est quelle fonction le jeu vidéo a dans les vies queer, et notamment dans les identités du coup transféminines, malgré l'impensée confirmée des studios de création. Bah, alors, t'as écrit 130 pages là-dessus, donc...
Raconte-nous tout.
voilà, si tu pouvais nous résumer les 130 pages rapidement. Non, mais est-ce que tu saurais peut-être introduire le début d'une réponse?
Alors, oui. La question, c'était quel rôle ça a dans les parcours des personnes queer, le jeu vidéo. Ma réponse, elle est très simple, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié le rôle des jeux vidéo pour les personnes queer de manière générale. J'ai étudié sur une population qui est beaucoup plus restreinte, qui est des personnes s'identifiant comme transfemmes ou femmes trans. Donc après, c'est de l'autodétermination. Hein. J'ai pas fait la chasse à. J'ai pas fait des critères. Voilà, j'ai pas dit je veux que des femmes trans qui ont réalisé une transition, etc. etc. C'était même intéressant d'avoir des femmes trans qui étaient au placard, d'autres qui ne l'étaient pas, d'autres qui n'étaient pas forcément visiblement trans dans l'espace public, etc. 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 Donc, queer, oui, il y en a certaines d'entre elles qui se considéraient comme queer, d'autres non. Est-ce que c'est quel est le rôle et la fonction? Bah, c'est très large. Pour les femmes trans. Donc moi, quand je me suis intéressé à cette population, je me suis notamment demandé pas tant ce qu'elles voyaient dans les jeux, plutôt comment elles y jouaient et pourquoi. Moi, je ne me suis pas du tout intéressé à la représentation, par exemple. Enfin, en fait, c'est venu dans les entretiens, parce que certaines d'entre elles en parlaient, mais ça venait assez peu, parce qu'en fait, on se rend compte, et que pas que grâce à mes travaux, hein, y a des gens qui ont montré ça très très bien, que les gens ont une capacité, une résistance critique et ou d'appropriation des contenus qui va au-delà du fait que le contenu ait l'air queer ou non. Mmh. On peut penser par exemple à toutes les appropriations féministes de Lara Croft, on peut penser à toutes les appropriations de la fanfiction de manière générale sur les contenus médiatiques et culturels, c'est un exemple par excellence. Je pense à Twilight, je pense aussi aux appropriations de Buffy contre les vampires, où il y a eu des super travaux, notamment il y a eu un super travail, malheureusement le nom de l'autrice m'échappe, sur une appropriation lesbienne, une lecture lesbienne de Buffy contre les vampires. L'article était vraiment merveilleux. Je crois que c'est Hélène Breda qui en parlait, qui est tout à fait fantastique. Mais donc voilà, moi, représentation, ça m'a pas intéressé du tout. Et je suis pas non plus parti en me disant, je veux partir de tel jeu. En fait, partir de tel jeu, ça aurait été un peu un non-sens pour moi, qui aurait été de imposer une catégorie, imposer un point de départ. Je me suis plutôt dit, on va partir des personnes pour aller vers les plateformes et les objets. Donc moi, j'avais vraiment un truc de partir, en langage de recherche, partir des acteurs et des actrices pour aller vers les plateformes et les objets. Et donc, j'ai tout simplement posté un message qui demandait « Est-ce que vous êtes une femme trans? Vous avez une pratique de jeux vidéo? Venez en parler avec moi. » Et pour ce faire, donc, j'ai fait des entretiens, donc ce qu'on appelle des entretiens semi-directifs. C'est un entretien où on ne pose pas une série de questions aux personnes, donc ce n'est pas un questionnaire administré. On les laisse un peu développer, mais pas non plus trop. Donc on fait des relances, on pose des questions, ce n'est pas juste une question et on laisse la personne parler 2 heures. Et pendant ces entretiens, j'avais 2 questions. C'est quel a été ton parcours de transition et quel a été et quel est ton parcours de joueuse. Et ce qui ressort en fait de ces entretiens, c'était des entrecroisements. C'est-à-dire qu'il y a des fois pas du tout. En fait, c'est-à-dire que ça a eu un rôle et une fonction pour certaines d'entre elles et d'autres non. Et c'est à partir de là, de ces entrecroisements, en fait, que j'ai pu déterminer des éléments de rôle et de fonction que je peux résumer, pour être très très concise, en trois catégories que je reprends à un chercheur qui s'appelle Avi Marciano, lui qui a plutôt travaillé en l'occurrence sur Tumblr et l'utilisation de Tumblr par les communautés trans et queer à l'époque où on pouvait encore poster du contenu explicite au sens de des photos de torse, des photos de corps, qui étaient utilisées comme une espèce de répertoire, de bibliothèque, de lieu de recueil et de trouvailles d'informations pour se renseigner sur la transition. Et lui, il explique que donc Tumblr, et moi je maintiens que les jeux vidéo ont cette même capacité vis-à-vis des personnes trans, mais pas que, parce que c'est aussi une des conclusions sur laquelle je vais dans mon mémoire, ont une capacité de permettre aux personnes trans de vivre leur transitude, donc l'état d'être trans, de manière alternative, complémentaire, ou, et j'en ai une dernière, alternative complémentaire. Pourquoi est-ce qu'il me manque la dernière? C'est terrible. Alternative au vécu de la transitude dans l'espace public, complémentaire au vécu de la transitude dans l'espace public ou préliminaire, préliminaire au vécu de la transitude dans l'espace public. C'est un peu les 3 catégories de rôles et fonctions des jeux vidéo pour les femmes trans. Et après, si on rentre dans le détail de ces catégories, il se passe plein de choses.
Et oui, c'est ça. D'accord. Ben, merci, c'était limpide pour un résumé.
Oui, merci beaucoup.
Vraiment. Alors, n'hésitez pas, Alex et Myriam, à rebondir.
Oui, évidemment, j'ai envie de rebondir, mais pas plus que ça. Voilà, mais...
Vas-y, vas-y.
Ce que du coup, tu as remarqué, c'est... en gros, quand tu dis voilà, complémentaire, préliminaire, c'est que le jeu vidéo, par la création, par exemple, d'avatar, peut être à l'initiative d'une prise de conscience, d'un coming in de transidentité.
L'avatar, c'est un peu le sujet tarte à la crème. Quand j'ai commencé à travailler sur la pratique du jeu vidéo par les personnes trans, l'avatar, c'est une catégorie qui est très examinée, entre autres par des chercheuses cis, alors que c'est une catégorie qui, d'après les travaux que j'ai menés, ressort assez peu. Alors, elle ressort, mais ce n'est pas le lieu qui emplit le plus de sens. Ce qui, pour moi, est intéressant en 2 points, c'est qu'en fait, l'avatar ne cristallise pas tout. Et que même, je dirais, histoire de lâcher un scud, mais je pense que c'est une critique intéressante, la focalisation des chercheuses cis sur ce que les personnes trans font de leur corps dans les espaces numériques, elle est pour moi une retransposition simple et claire de l'intérêt des chercheuses cis de manière générale, à savoir ce que les personnes trans font de leur corps tout court. Et le fait que c'est uniquement par ce biais que ça a été étudié quand j'ai fait mon état de littérature, c'était ça. le fait que ça ait été étudié uniquement par ce biais, c'était assez clair pour moi qu'il manquait des cases. Et en fait, il y a plein d'autres catégories de qui existent. Mais en effet, c'est quelque chose qui m'a quand même été rapporté, pour revenir à ce que tu me disais. J'ai une enquêtée qui me disait, ben voilà, j'ai réouvert les Sims 10 ans après, et en fait, je me suis retrouvé, moi, maintenant, alors qu'à l'époque, j'avais créé ce personnage pré-transition. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est pas du tout un site d'investissement de sens, pas du tout, du tout. C'est souvent le cas pour des femmes trans qui en fait, sont out dans la vraie vie, enfin, les jeux vidéo, c'est la vraie vie.
Oui.
Qui sont out dans l'espace public, physique, qui n'ont pas forcément autant de difficultés que d'autres à l'être. Là où c'est plutôt le cas, donc des avatars investis de sens, c'est pour des femmes trans pour qui ce n'est pas forcément le cas dans la vie en fait, physique. C'est-à-dire, là on retrouve l'idée alternative, donc le rôle et la fonction alternative du vécu de la transitude, c'est ce n'est pas possible dans l'espace public physique, donc je m'en contente ailleurs, en l'occurrence, les jeux vidéo. Et c'est aussi lié en fait à des profils de femmes trans très particuliers. C'est un truc très, très important dans mon travail, c'est que je ne m'amuse pas juste à dire les avatars c'est génial, on peut jouer un avatar du genre opposé au nôtre et découvrir des choses. C'est pourquoi on le fait. Et on le fait parce qu'en fait les conditions d'existence en dehors du jeu sont trop violentes pour que ce soit fait dans l'espace public sans réprimande.
C'est marrant ce que tu dis, pardon.
Non, je t'en prie, vas-y.
Non mais c'était juste parce que ça me parlait ces histoires d'avatar parce que moi depuis enfant je fais... des mecs grands, très musclés, avec des cheveux rasés et torse nu, voire à poil si je peux. Plus j'ai avancé dans Coming In, plus out un peu sur des questions d'identité de genre, plus j'ai continué à faire des personnages comme ça, mais moins dans le cliché, moins dans l'hyper-masculinité. Et du coup ça me parle, je me dis qu'il faudrait que je lise tes travaux. C'était juste pour appuyer ce truc de j'ai l'impression aussi que l'avatar il y a un truc qui se joue de fort, mais peut-être que ça me parle quand tu dis que c'est quand il n'y a pas quelque chose encore d'assumé ou de compris et que ça sert de transgression un petit peu comme si ça sert, enfin voilà,
ouais.
et qu'après tu t'en sers un peu différemment, j'imagine, quand t'es de mieux en mieux, enfin j'en sais rien, en tout cas quand et je m'intéresse juste à savoir à part l'avatar, c'est quoi les autres moyens.
Il y en a énormément, on pourrait en parler pendant longtemps. Okay. Il y en a un qu'on oublie souvent parce qu'il est extrêmement bête, c'est le plaisir. En fait, jouer aux jeux vidéo, c'est agréable. Et jouer à quelque chose qui est agréable quand tu es en train de vivre l'expérience de la transition ou du placard, qui sont les deux violentes, même si elles permettent à la fois aussi de passer à un statut ou à une place qu'on préfère en fait, jouer à quelque chose de plaisant quand on a une vie déplaisante, c'est chouette. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui est très bête, mais qui est souvent très peu étudié aussi, c'est la question du plaisir. Et la question du plaisir, elle est assez centrale pour pas mal des enquêtés, c'est qu'en fait, c'est un lieu où on est en contrôle de ce qui se passe, si on joue en solo en tout cas, on est en contrôle de ce qui se passe, on a des limites claires, si on n'est pas en ligne, on est dans le contrôle total de ce qui se passe autour de nous, et donc en fait c'est une expérience qui est très paisible et on retrouve notamment pas mal de catégories de jeux de ferme, de jeux de simulation, de vie en fait, qui moi j'ai une enquêtée qui me disait c'est mener une petite vie à côté de la mienne, en fait une vie où tout se passe bien.
Autour de Stardew Valley, il me semble.
Elle parlait de Stardew Valley en l'occurrence, ouais. Mais il y en a d'autres qui m'en ont parlé de d'autres. Mais en l'occurrence, voilà, cette enquêtée, elle me parlait de Stardew Valley. Elle me dit en fait, je rentre chez moi, je vais cultiver mes patates, mes carottes, mes choux, et là, personne ne va me faire chier. Tout va bien fonctionner. Et donc, c'est super. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très bête, mais le plaisir est hyper important, quoi.
Carrément.
Je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le cinéma, qui est mon domaine professionnel, et où je parle beaucoup du plaisir. Au moment de parler de programmation, hein, du geste de programmation, qu'est-ce que c'est de montrer des films, quel film, dans quel contexte, et que le plaisir est en fait quand même quelque chose qu'on doit vraiment revendiquer aussi, qui est le plaisir certes de voir le film, mais aussi le plaisir de le montrer, de le partager, d'en parler. Et pardon, est-ce que je peux juste rebondir sur quelque chose qui a été dit et que j'ai trouvé très pertinent, puisque justement quand on pose la question des jeux vidéo, c'est vrai, et de Tumblr par exemple, où on a pu voir justement que c'est dans ces fandoms qu'on a vu voir beaucoup de personnes finalement se révéler, mais aussi dans les fanfictions, donc qui est un milieu d'où je viens quand j'étais adolescente, etc. Et où beaucoup d'auteurs, d'autrices que je suivais finalement ont fait leur transition plus tard, se sont révélés beaucoup moins, on va dire,
bloqué sur le genre, enfin voilà, beaucoup moins réduit. Et du coup, je me demandais si dans ton travail, certes, j'ai bien compris le jeu vidéo et les femmes trans ou transfemmes, mais est-ce qu'il y a aussi... Du coup, il y a la porosité dans la méthode de recherche avec d'autres endroits, des fandoms. Et je me demandais si ça apparaissait, par contre, si tu t'y étais quand même un peu... Voilà, tu tentes quand même un peu de lancer des fils comme ça.
Alors, en effet, comme je ne me suis pas intéressé à des plateformes et des jeux en priorité ou en principal, on retrouve en effet ce qu'on appelle des réseaux de pratiques qui, en fait, ne gravitent pas qu'autour du jeu vidéo. Donc moi, j'ai une enquêtée qui me parle qu'en fait... le jeu vidéo, ben oui, ça a une place importante, elle joue, etc. Mais c'est pas si significatif pour elle. Elle me parle alors plus, à ce moment-là plutôt de cinéma. Donc moi, après, bon, bah, j'ai ma casquette de chercheuse, j'ai mon cadre, j'ai dit qu'on parlait de jeu vidéo, donc je la laisse m'expliquer, elle fait quelques liens. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en l'occurrence, le jeu vidéo, pour elle, c'est pas si important. Et en fait, la plupart... Le jeu vidéo a des spécificités qui font que c'est pas comparable à tout. Mais la plupart des rôles et fonctions que je présente, ils seraient transportables, déjà pas qu'à des populations trans, de manière générale, mais aussi à d'autres médias et objets culturels. En l'occurrence, le cinéma, ça fonctionne très bien. La lecture, enfin, il y a plein de choses, la musique, ça en serait un aussi. Moi, il me semble quand même que dans le jeu vidéo, il y a une interactivité qui est plus forte, parce qu'on demande une action aux gens. On demande tout à fait des actions aux gens dans le cinéma. On leur demande de regarder, on leur demande d'écouter, on leur demande de lire, on leur demande de plein de choses. C'est juste qu'il y a une image passive du spectateur de cinéma, mais en fait, on n'est pas du tout passif. C'est juste que dans le jeu vidéo, il y a littéralement ce qui fait le principe du jeu vidéo, qui est l'interactivité,
oui.
Où on invite les gens à prendre part, et l'action de prendre part invite, d'une certaine manière, et pour certaines enquêtées, à se réaliser, voire même à expérimenter des choses qu'elles n'auraient pas pu expérimenter ailleurs. En l'occurrence, l'enquêtée qui me parlait de cinéma, elle parlait de à quel point, en fait, en étant au placard, elle avait une difficulté à ressentir des émotions. Et notamment parce qu'on est souvent très coupé de soi-même, quand on est au placard ou quand on est encore dans le coming-in, etc. Et qu'avec le début de la transition, elle avait un peu plus... C'était elle a dit, oh, ben, en fait, là, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Et le début de la transition avait débloqué ça. Et quand elle s'est rendue compte de sa capacité à ressentir des émotions, elle s'est dit, bah... Il faut que je me mette des trucs dans la tête pour que je les ressente, ces émotions. Et donc là, le cinéma est intervenu. Pour d'autres enquêtés, c'était les jeux vidéo, par exemple. Mais donc voilà, on voit qu'il y a des rôles. Donc en effet, il y a des réseaux de pratiques. Il y en a beaucoup qui sont des nerds de manière générale et qui se décrivent en tant que tels, hein, qui font des figurines Warhammer à côté, ou alors elles sont très investies dans le cinéma, la musique, etc. etc. Il y en a une même qui est une youtubeuse qui produit des essais sur le jeu vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. Elles ont toutes des réseaux de pratiques qui s'orientent autour, quoi. Ou alors des Lego et des bouquins. Il y en a une, j'ai fait l'entretien chez elle, ce qui est une vraie chance en sociologie de manière générale, et elle m'a fait visiter toute sa chambre, montrer tous ses posters de jeux vidéo, etc. etc. Elle me montrait à quel point ça c'était important, ça aussi. Il y avait plein de liens qui étaient super chouettes, quoi, avec ça. Et il y a même des réseaux de pratiques plus larges, le stream. Il y en a plusieurs qui faisaient du stream à petite échelle. Il y en a une qui m'expliquait qu'elle faisait du VTubing, qui est donc du stream avec des avatars en 3D où notre visage n'apparaît pas. Elle m'expliquait tout le sens qu'il y avait derrière, le fait de ne pas avoir à montrer son propre visage à elle, qu'elle avait du mal en fait à montrer, que c'était dur pour elle, etc., etc., etc. Donc oui, on voit qu'il y a tout à fait des porosités en fait entre plusieurs pratiques culturelles, et c'est rarement, et ça c'est important, uniquement le jeu vidéo qui crée une prise de conscience. On est sur des et de manière générale, là après on touche à un truc qui est la quête de l'origine et qu'est-ce qui fait que les gens sont trans. Moi j'aurais tendance à dire que oui, les jeux vidéo peuvent rendre les gens trans, mais parce que je pense pas, en l'occurrence, et c'est un truc qui est important dans mon travail, je le dis de manière un peu kitschouille au début, je dis on n'est pas trans, on le devient parce que c'est rigolo et puis que ça fait des références à d'autres, mais d'un point de vue plus de sociologue de mon côté, je pense qu'en effet on n'est pas trans, tout comme on ne n'est pas un homme, on ne n'est pas une femme, est, et puis après il y a des trucs qui se mettent par dessus, quoi.
Tu parlais du streaming, du VTubing, et tu mentionnes notamment dans ton mémoire que il y a une le fait de s'exposer peut aussi malheureusement du coup faire face, enfin se confronter à de la violence dans les jeux comme IRL. En fait, hein, ça se reproduit, ce que tu as appelé le déclassement de genre, il est vécu donc dans les jeux comme IRL. Et notamment, tu parles de la voix et sur le chat, parce qu'en fait, donc en streaming, pour les personnes qui nous écoutent, ce qui nous expose le plus, c'est la voix, parce qu'on n'est pas obligé de montrer notre visage, mais on nous entend. Et cette voix, elle est confrontée à de la misogynie si elle passe, entre guillemets, s'il y a un passing de voix féminine, c'est la misogynie qui intervient, et si elle ne passe pas, c'est l'homophobie ou la transphobie qui va jaillir des personnes qui regardent. Voilà, et ce que je me demandais, c'est quelles stratégies d'évitement sont mises en place par les personnes qui streament ou qui s'exposent en tout cas numériquement.
Bah, celles qui streament, il n'y a pas trop de stratégies d'évitement. Alors, le VTubing en est une, mais en l'occurrence, bon, moi j'ai pas eu ça dans ma population, mais je sais que ça existe des modificateurs de voix. Je sais qu'il y a des streameurs et streameuses qui utilisent du VTubing plus de la modification de voix. Mais en l'occurrence, moi j'ai un peu envie de dire que c'est comme si Yael mettait un costume tout en sac poubelle. On les voit pas, mais genre le costume il est rose, blanc et bleu, quoi. Bon, c'est-à-dire que si on n'est pas dupe, on comprend ce qui se passe, on sait que c'est une personne trans, etc., etc. Mais tant mieux pour elle ou pour lui, en fait, si jamais ça l'aide à streamer. Là où la question de la voix elle se joue plus, pour moi, c'est sur les jeux en ligne, c'est sur les lobbies. Et là, le déclassement de genre, donc qui est une notion qui est ramenée par Emmanuel Bobassi, qui a fait une thèse qui date un peu maintenant, hein, mais sur les différences de vécu de la transitude et de l'expérience de la transition selon la position sur le spectre trans. Donc en l'occurrence, lui, il s'intéresse, c'est daté, mais c'est une des rares données qu'on a sur les différences entre les femmes trans, les hommes trans et les personnes non binaires, en des termes très sociologiques. Qui sait ? Quels moyens financiers ont-ils et ont-elles ? Quel capital économique, culturel et etc. Et à quel âge ils le font, etc., 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 etc. Et ce qu'on note particulièrement pour les femmes trans, c'est un déclassement de genre. Elles partent d'une position dans l'espace social du genre, c'est ce que théorise en fait Emmanuel Bobassi, qui est moins intéressante en devenant des femmes que là où elles étaient avant, quand elles étaient perçues et considérées et traitées en tant qu'hommes. Là où, pour une grande partie des hommes trans, on est sur une promotion de genre. Mmh. Ce qui fait que, de manière générale, les transitions transmasculines sont plus accepté et moins réprimandé en termes de violence. Il n'y a pas de violence, mais de manière générale, c'est quand même ce que la sociologie montre. Et pour les personnes non binaires, on est sur des entre-deux un petit peu particuliers, où ça dépend de sur quelle place à quel endroit on se place sur le spectre de la non-binarité. Est-ce qu'on est sur une non-binarité qui est en termes d'identité, donc sans forcément d'acte de passing ou de transgression, qui là est en l'occurrence plus un état de rapports sociaux purs et durs. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas visible qu'on est non-binaire dans l'espace social du genre à partir du moment où on sait peut-être uniquement nos pronoms, etc. L'idée étant pas de dire qu'il y ait du forcing à faire des actes de transition, mais plus qu'en fait une expérience de transition de quelqu'un qui change juste ses pronoms mais pas son apparence, ni fait d'acte de transition, médical ou non, ça ne change rien, n'est pas la même que, comme certaines meufs trans s'appellent, des pédales non-binaires qui à la fois ont l'air de meufs, ou alors de personnes transmasques qui vont cultiver une certaine ambiguïté. Et là, c'est pas du tout pareil en termes de violence. Bref, tout ça pour dire que donc ce déclassement de genre, il se produit pas que dans l'espace public physique. Il se produit spécifiquement aussi en ligne parce qu'on passe d'une communauté où on était la norme à une communauté où on n'est plus la norme. Quand on est un homme blanc, et même de manière générale un homme dans les jeux vidéo en ligne, et qu'on est perçu et considéré et traité en tant que tel, ça se passe relativement bien. On a une place qui est prépondérante, on a une place majoritaire, on est mieux traité. Et donc quand on choisit de devenir une femme, tout comme dans l'espace public physique, puisque les deux ne sont pas séparés, hein, eh bien en fait on subit ce déclassement de genre. Et même quand on coupe la voix, tout ne s'arrête pas. Si on coupe la voix par exemple, et qu'on se genre au féminin à l'écrit, eh bien moi je pense à des joueuses sur World of Warcraft, elles vont recevoir des cadeaux de la part de d'autres joueurs. Elles vont se faire draguer par message. Et si on parle que de la voix, et ben là, il y a des choix très, très concrets qui s'appliquent. Pour les joueuses qui veulent jouer à haut niveau, elles ne se outent pas. Elles boy mode, comme on dirait. Elles se font passer pour un garçon pour pouvoir continuer à jouer à des niveaux élevés en ligne. Parce qu'en général, lorsqu'on joue aux jeux vidéo en ligne à un niveau très élevé, ça demande du travail vocal. Et donc, sinon, il y en a aussi qui choisissent d'arrêter de jouer en ligne. Donc, on est sur une privation d'une forme de pratique.
Ou même pour entrer dans une forme de provocation avec. Ouais. C'est ça que tu allais dire, peut-être.
Désolée, je sais que c'est très désagréable quand on parle de sociaux, qu'il y ait des gens qui ramènent leur expérience personnelle pour parler de quelque chose, mais.
Faisons la sociologie de comptoir.
Faisons la sociologie de comptoir.
Vraiment, aucun problème.
On fait un truc assez rigolo avec un groupe d'amis avec qui on joue beaucoup aux jeux vidéo ensemble. Adrie, tu en fais partie. Où on a des pseudos. On joue par exemple à Valorant, qui est un des jeux les plus toxiques de la Terre, avec comme c'est la
League of Legends,
c'est la même boîte du coup que League of Legends, les mêmes communautés du coup à peu près. Donc c'est beaucoup de toxicité, beaucoup de dès que tu perds t'es gay, enfin c'est vraiment you're gay, enfin c'est vraiment des trucs assez atroces. Et on se retrouve ensemble pour jouer et chacune a un pseudo un petit peu qui voilà, par exemple notre ami Lou c'est Transcagole. Notre amie Jenny, je sais plus, mais il y a trans aussi dedans, je crois. Transgadji, je sais plus. Melvin, c'était trans sucré. Moi, c'est Avril Lagouine, tu vois. Et du coup, c'est assez drôle.
Avril Lagouine, c'est super.
Merci, c'est mon pseudo aussi de stream. Mais du coup, c'est rigolo parce que du coup, on fait exprès de jouer ensemble. Quand chacune va jouer individuellement, c'est généralement assez compliqué avec ce pseudo-là. Enfin, souvent, moi, il y a des problèmes, des trucs chiants, voilà. Ouais. Mais par contre, ensemble, qu'est-ce qu'on rigole, quoi. Parce que vraiment, c'est Are you trans? Et je sais pas, il y a un truc où on tourne le truc en dérision et le fait de rentrer dans la provoque là-dedans et de faire exprès de le marquer et de répondre de manière un peu débile aux gens, bah, ça nous fait un peu du bien en même temps. Mais on peut le faire que quand on est ensemble et que quand on joue ensemble. Parce que.
Il y a aussi des stratégies de jeu collectives, ouais. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, du coup, pour ne pas rencontrer ces problèmes-là, décident de jouer uniquement ensemble. En fait, on retrouve des évitements des espaces mixtes pour créer des espaces de jeu en non-mixité. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai repéré, moi, dans ma population, de gens qui me parlent qui ne jouent qu'entre personnes trans et queer. Et en fait, c'est une autre des stratégies pour pouvoir continuer à faire la pratique de jeu qu'on avait déjà par le passé, en fait, qui est là depuis très longtemps, en fait, dans le cas des femmes trans. Là, on part sur la sociologie très à l'ancienne, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est présent dans la vie des femmes trans? C'est parce qu'en fait, dans l'enfance, les personnes qui sont considérées, perçues et traitées comme de jeunes garçons, elles sont beaucoup plus probablement mises en contact avec les jeux vidéo et la technologie, souvent par la figure du père, que les personnes qui sont considérées, traitées et perçues en tant que jeunes femmes, en fait. Et donc, le jeu vidéo n'est pas là pour rien. En fait, c'est moi ce que j'aime bien l'appeler, c'est qu'en fait, c'est ce que j'appelle moi dans mon mémoire un objet fixe dans un parcours mouvant. C'est quelque chose qui est là, qui a toujours été là, qui est resté ou pas, du coup, comme elles veulent garder cette pratique, eh ben la création de communautés en non-mixité, les stratégies d'évitement par la voix, le fait de pas parler ou alors d'aller vers le jeu solo à la limite, c'est plein de petites stratégies pour garder cet objet fixe. Tout en ayant un parcours qui a énormément bougé, en fait, avec l'expérience de la transition, quoi.
Ça me donne envie, du coup, de lire un extrait de ta conclusion. Ou peut-être que toi, tu veux le lire, je sais pas.
Non, je t'en prie, vas-y.
Qui, je pense, va bien avec ce que tu viens de dire. Alors, tu dis « Ainsi, il n'est pas question de refuser de jouer ou de ne pas faire quelque chose des jeux vidéo, mais plutôt de les voir comme un rocher auquel s'accrocher. Un lieu où se recueillir, retrouver des pairs, accepter et ressentir ses émotions, se projeter dans une version féminine de soi, avec la sexualité que l'on souhaiterait avoir lorsqu'elle ne nous est pas accessible. La pratique offre alors aussi l'opportunité de s'identifier à des figures fortes, d'en critiquer d'autres, de performer la féminité dans le jeu de rôle et de créer des espaces de déploiement du corps différents de ceux du corps physique. Ils permettent aussi, semblerait-il, de se reconnecter avec soi-même. Sa vie morcelée par l'expérience d'une rupture de sa trajectoire de genre. De manière plus simple encore, ils permettent de faire perdurer le temps des parties, l'euphorie du vécu en tant que femme et la possibilité de s'évader, de se refaire une petite vie où tout se passe bien, d'essayer de nouvelles choses sur le plan esthétique via les avatars. Voilà, j'ai envie de lire ça, j'adorais ce morceau de conclusion.
Snap.
Qui résume en fait toutes les catégories analysées dans le mémoire, en gros, dans lesquelles on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais entre autres. Voilà.
Trop bien. Et je peux rajouter quelque chose. Ça fait un moment que je me pose vachement de questions au sujet de femmes trans, mecs trans, dans les pratiques de jeux vidéo, quel type de jeux vidéo, quelles consoles vont être utilisées. J'ai l'impression, je sais pas si tu seras d'accord, en sachant que je vais faire évidemment ça va être que des impressions très personnelles. J'ai l'impression que les meufs trans ou les transfemmes personnes transféminines sont plus sur des jeux tu sais, un peu plus de hardcore gaming, de trucs de plus
FPS tactique.
Ouais, tu vois, genre des, comment dire, tu vois, des jeux sur PC, des jeux en mode c'est horrible de dire hardcore gaming ou vrai gaming, mais tu sais, genre un peu genre hardcore, tu vois, dans de la pratique du jeu vidéo très on y va fort et on est difficile, vraiment. Ouais. Et que les mecs trans vont plus être souvent sur des jeux type Switch, jeux familiaux, jeux chill, jeux moins dans le hardcore et moins dans les jeux en ligne, moins dans les... Tu vois ce que je veux dire ?
Très bien.
J'ai l'impression, et moi je suis un peu genre, j'aime bien le hardcore gaming et je me retrouve un peu qu'avec des meufs trans. Je suis en mode, mais où sont les mecs trans? Et c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un truc que t'as remarqué, toi?
Alors en fait, c'est pas un truc que j'ai remarqué, mais c'est un truc qu'on peut expliquer très facilement. Quand les personnes qui sont considérées traitées et perçues comme de jeunes femmes sont amenées vers le jeu vidéo, elles ne sont pas amenées vers les mêmes jeux et vers les mêmes supports que les personnes qui sont traitées, perçues et considérées comme de jeunes garçons. Et en fait, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, c'est des bagages qui restent avec nous. Emmanuel Bobassi, il a une expression qui est très très belle, et il dit, alors je ne sais plus si c'est en ces termes exactement, mais la partie qui m'intéresse, je l'ai, on compose avec nous, avec les bagages du passé. Et moi je trouve que ces bagages du passé, c'est une manière très jolie de dire qu'en fait, une transition, elle ne part pas de rien, on emporte avec nous des choses qui viennent d'avant. Et en l'occurrence, nos pratiques vidéoludiques, elles ne se sont pas, pour la plupart d'entre nous, quand on joue en général, construites uniquement durant la transition ou après. Et donc, elles ont un héritage, elles viennent de quelque part. Et donc, elles ont des influences qui viennent notamment de la socialisation culturelle. Donc ça, c'est notamment beaucoup Sylvie Octobre qui en parle, mais elle ne parle pas du jeu vidéo spécifiquement, mais elle parle de comment les objets culturels sont amenés, pourquoi. Et après, on a toute la question de la sociologie des jeux vidéo et des sciences de l'infocom qui nous apprennent comment les gens jouent, à quel jeu et pourquoi. Et en l'occurrence, oui, c'est pas étonnant. En fait, la plupart du temps, les femmes trans, dans leur expérience passée de jeu, ont été amenées vers du jeu difficile, vers du jeu compétitif, parce qu'en fait, qu'elles aimaient ça ou non, c'est ce qui leur a été mis entre les mains. Et de même manière que les personnes qui étaient considérées et traitées comme de jeunes femmes, on les a amenées vers d'autres types de jeux. Aussi, un autre élément qui est pas à prendre à défaut, c'est qu'il y a plein de raisons de pourquoi c'est fait comme ça. C'est pas une raison qui est purement de la socialisation culturelle et des jeux vidéo. Il y a aussi des questions très simples de sociologie de la répartition de la charge et du travail. Les personnes qui sont considérées et traitées comme de jeunes femmes sont amenées plus facilement à faire des tâches du foyer, des tâches du quotidien, donc ce qu'on appelle ce qui pourrait être une forme de préparation au phénomène de la double journée, qui est donc le fait qu'une fois qu'on est rentré du travail, on a la vie à la maison à faire, donc les enfants, le foyer, le ménage. C'est très caricatural, mais en fait c'est toujours aussi vrai même dans les couples à l'heure actuelle. Et on a moins de temps pour jouer, sauf qu'en fait, pour être bon à un jeu difficile, eh ben, il faut beaucoup jouer. Mais si on n'a pas de temps pour jouer, on peut pas beaucoup jouer. Et donc voilà, il y a plein de choses qui s'expliquent comme ça. Mais, mine de rien, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a en effet des personnes transmasques qui adorent les jeux plus difficiles. Et il y a aussi beaucoup de personnes transfemmes qui ont une pratique du jeu très solo et pas forcément compétitive, qui ne recherchent pas forcément la difficulté. Mais, en effet, on ne peut quand même pas nier le fait que la difficulté dans les parcours de jeux transfemmes, elle existe, elle perdure. Tout comme la facilité, j'ai envie de dire, parce que c'est pas péjoratif, la facilité et le jeu plus chill, les cozy games, sont plus présents dans les parcours de jeu des personnes transmasques. On n'a pas de données, mais a priori, c'est une hypothèse qui pourrait se vérifier, en tout cas. C'est plutôt ce que je me dis, parce qu'en final, en fait, même si on transitionne, on garde beaucoup de ces bagages du passé en termes de pratiques culturelles et vidéoludiques, quoi.
Bien sûr. Trop bien. Donc, c'était pas trop que des impressions bizarres. Ça, peut...
Okay. Ça s'explique très facilement.
Voilà. Trop, trop bien.
Bah, super. Merci beaucoup, Mélénoé. On arrive à peu près au temps qu'on s'était donné. Est-ce que vous voulez dire un dernier truc?
Oui. Déjà, merci. Mais je Avec voulais aussi parler de quelque chose. Et peut-être que tu connais. J'étais il y a un mois à la Trans Jam, justement, pour continuer dans le sujet. Tu vois ce que c'est, la Trans Jam?
Des gens qui font des jeux et qui sont trans.
Exactement. Du coup, les game jams, je crois que ça s'appelle, le fait de créer des jeux
dans un temps très court,
genre 3 jours, hop, tu crées un jeu, tu fais des groupes et tu mets un thème et tu crées un jeu. Ça paraît fou, mais en fait, je pensais pas que c'était possible. Et en fait, j'étais à ma première jam, du coup, il y a pas longtemps, et c'était la Trans Jam, du coup, une session jam de création de jeux entre personnes trans et ou non binaires. Qui était à Paris là, les 8, 9 et 11 novembre, ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas début mi-novembre. Bon, j'ai fait que le premier jour parce qu'après j'avais la gastro. Et du coup, j'étais extrêmement malade. Donc, j'ai fait un jour sur les trois. Donc, j'étais très triste parce que j'attendais cet événement depuis longtemps. Mais c'était quand même très, très bien ce premier jour. Et on a fait, du coup, le thème, c'était bug. Et à partir de ça, on a eu plein d'idées. On s'est retrouvés en différents groupes. Et il y a plein de gens qui ne savaient pas, comme moi, développer ou coder ou quoi que ce soit. Et en fait, on sert à d'autres choses, à penser à l'écriture, le scénario, le graphisme, plein d'autres petites tâches à faire. Il n'y a pas que... Donc, on peut participer à des sessions comme ça sans savoir coder. Il y avait toujours, de toute façon, à peu près une personne qui savait coder dans chaque groupe. Donc, c'était vraiment super, une expérience incroyable. Et du coup, forcément, tous les jeux qui en sont ressortis, l'idée, c'est aussi que ça a un lien avec les transidentités, sans que ça soit pour autant quelque chose autour de le personnage être trans pour être trans. Enfin, oui, en gros, fait partie de l'histoire en soi, sans que ça soit forcément le focus central. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super qu'on puisse échanger. Et ça fait aussi creuser plein de choses, en fait. Et je vous enverrai si ça vous intéresse nos différents jeux, ce qui était super. Voilà.
Bah oui, avec plaisir. On le mettra même en lien quand on repartagera le replay de l'émission. Ça pourrait être bien.
Carrément. Oui. Et juste, sachez que c'est chaque année, hein, si ça vous intéresse de participer. Chaque année, la Transjam, c'est à Paris, du coup. Et il faut faire 3 jours où on est bien dispo et c'est quand même du taf. Mais c'est trop. Je trouve que c'est une expérience hyper intéressante de vraiment créer un jeu de A à Z. Sans IA, sans rien du tout. Hein, on n'a pas utilisé d'IA. Et on a tout fait de A à Z. Et c'était incroyable.
Ça a l'air génial.
Ouais.
Et moi, je voulais te demander par rapport à ton travail. Donc, du coup, on est d'accord. Alors, parce que tu as beaucoup utilisé le mot mémoire,
oui.
Mais c'est sorti, donc ça a été édité sous un livre.
Alors, non.
Non, voilà.
Pas encore.
Okay.
Alors, en fait, ça ne sortira pas sous forme de livre.
D'accord.
Mais. Ça prend du temps, mais l'article a été. J'ai écrit un article en fait qui résume, donc un article scientifique qui résume ces travaux de mémoire, qui devrait être publié, j'espère, courant de l'année prochaine. Ce n'est plus entre mes mains à l'heure actuelle. La relecture par les pairs a été faite, la V2 a été envoyée. Maintenant, il faut que l'édition fasse son travail. Mais il y a un numéro d'une revue scientifique en Cultural Studies, spécifiquement porté sur. Donc le numéro-là, il sera spécifiquement sur les jeux vidéo, qui va paraître. Et il y aura un article qui résume tout mon travail dedans. Et après, on n'entendra plus trop parler, parce que je pars de l'étude du jeu vidéo, mais je reste sur l'étude des pratiques, les études de violence, les personnes queer et trans. Mais je m'éloigne un peu du jeu vidéo pour aller vers des environs autres. Mais donc voilà, c'est pas un travail qu'on peut retrouver à l'heure actuelle.
D'accord.
À part dans cette émission. Je pense notamment aussi à l'émission... donc il y avait l'émission Gamer Girls de Emily Guin sur Twitch... où on en avait un petit peu parlé aussi. Je me demande s'il n'y avait pas eu d'autres enregistrements aussi de d'autres radios ou d'autres émissions, mais je pense notamment à Gamer Girls d'Emily Guin en grande partie, où là on avait pris pour le coup beaucoup plus de temps, hein, c'est 4 heures, et où on parle de mon parcours de joueuse, mais on parle aussi de mon travail à ce moment-là. Donc voilà, donc il n'y a pas trop d'endroits où il est facilement accessible en dehors de ça, malheureusement.
D'accord, oui, le mémoire n'est pas disponible en ligne.
Le mémoire n'est pas disponible en ligne, tout à fait.
Voilà.
Et la revue dans laquelle tu vas publier ton travail, tu as l'intitulé, tu sais comment elle s'appelle, tu as le droit de dire comment elle s'appelle, cette revue?
Oui, je peux le dire, c'est juste en fait, si jamais ça se fait pas, c'est dommage, mais a priori, ce sera dans la revue Poly.
Poly.
Qui s'appelle P-O-L-I.
Ok.
Politique des Cultural Studies.
Trop bien, c'était trop intéressant. Merci
vraiment.
Merci à vous pour les questions, c'était vraiment chouette.
Trop bien.
Trop bien, trop bien.
J'espère que c'est pas trop frustré de ce petit temps pour parler d'un
travail.
C'est
vrai qu'on aura envie de parler plus longtemps.
Bah oui.
Oui,
même vous, je vois sur vos visages.
Oui, c'est ça, genre.
Prêt à bondir.
Moi, je me suis retenue parce que sinon je fais des tunnels, mais ouais.
Moi aussi.
Très bien. On est entre nous alors.
En tout cas, tu restes encore un peu avec nous avant de filer en catimini. Et on va passer une chanson qui fait référence directement à la chanson que toi tu avais passée au dernier épisode. Qui était la chanson de Chumbawamba.
Tout à fait. Until the last Nazi dies.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et avec des amis, on s'est amusé à la traduire en français et à la chanter à 3 voix dans notre salon. Donc la qualité sera la qualité d'un salon avec un zoom. Mais voilà, je voulais la faire une sorte de.
Personnellement, je la trouve super cette version.
Merci
j'adore.
Beaucoup.
Voilà. Je suis fan.
Voilà. C'est quand le dernier nazi mourra.
Rêve toujours de race pure. On lit dans les livres d'histoire qu'on les avait bien nus.
Mais les fachos ressortirent des bois
le jour de leur trépas. On dit que le procès de Nuremberg les jetèrent aux oubliettes. Que tant que leurs chefs sont en prison, nous on peut faire la fête. Et donc le monde des Ariens ne sera jamais vraiment là.
Mais alors pourquoi sont-ils encore là après
leur soi-disant trépas? Notre monde est rempli de vermines, et les vermines s'engraissent. Elles dévorent les bureaucrates, les patrons se repaissent. Ces âmes vénales prennent la tête de multinationales. Et bien sûr qu'ils sont toujours là suite à leur prétendu trépas. Si jamais tu crois ces historiens, voilà ce que tu peux dire. Rappelle-leur que les nazis n'ont jamais daigné mourir. Ils propagent leur haine raciste, leur envie de détruire. Et alors on se reposera que quand le dernier nazi mourra.
On est de retour.
Oui,
les politiques, c'était super cette chanson, Adrie aux toilettes, mais en tout cas merci Adrie pour cette chanson, super bien. Ça s'entend pas tellement que c'est dans un salon, je trouve ça passe bien.
Non, moi je trouve que c'est super, et puis en plus il y a une jolie alors traduction, adaptation quand ouais. même pour passer au français, et qui marche bien avec le rythme, donc tout est gardé.
C'est très bien. Là maintenant on doit passer, du coup on s'était dit que Myriam, vu qu'il s'est passé énormément de choses ces derniers temps dans les actus du jeu vidéo, que tu pouvais faire un petit moment actu.
Ouais, un petit moment actu. Elle est chaude, l'actualité, elle est chaude. Vous avez la ref?
Non, c'est quoi?
Ça va, Aymeric Lomprey?
Ah ouais!
Voilà, alors là, j'avais deux refs. Voilà, Aymeric Lomprey et Jamil Le Schlag. Mais non, bon, allez, c'est moi, Myriam. Ce n'est ni France Inter, ni Radio Nova. Vous êtes bien sûr Radio Galère à Marseille.
Ça me rassure, ça me
avec
rassure.
La team de Gaming et Politique.
Ça me rassure.
Oui, vraiment, c'était bluffant, je m'en doute. Alors tout d'abord, je voulais quand même dire merci à Adrie parce que c'est celui qui a, on va dire, qui m'a envoyé en fait ses notes que j'ai repris en grande, grande majorité pour pouvoir vous parler de ses actus, donc d'avoir rédigé tous ces points. Mais donc sans plus attendre, on va parler du mois de novembre, entre autres, puisqu'on n'avait pas eu d'émission, mais il s'est passé effectivement beaucoup de choses, mais je vais avoir quatre points. Alors, le 13 novembre dernier, 220 lettres signées par les salariés de Rockstar, studio derrière les énormes licences de Grand Theft Auto et ou de Red Dead Redemption, pour ne citer qu'elle, et qui au départ était basée à New York, mais qui depuis est répartie à l'international, ont été délivrées, donc ces lettres ont été délivrées à l'équipe de management du siège de l'entreprise, demandant la réintégration de 33 employés qui avaient été virés plus tôt dans le même mois. En effet, les employés mis à la porte sont tous sans exception membres du IWGB, Independent Workers Union of Great Britain. Et les ex-employés dénoncent, je cite, « le coup le plus impitoyable jamais porté au syndicalisme dans l'histoire de la création du jeu vidéo ». Pour rappel, les travailleurs et travailleuses syndiqués sont loin d'être légion dans les studios. Et elles ont manifesté donc en compagnie de soutien et d'employés devant les locaux de Take-Two. Take-Two, c'est l'entreprise qui est à la tête du studio Rockstar et qui est basée, elle, à Londres. Un des membres de la IGWB dénonce « C'est une entreprise qui bénéficie de plus de 440 millions de livres d'exonération fiscale en Grande-Bretagne, tout en démontrant un désintérêt flagrant pour le bien-être de ses employés et pour le code du travail. » Alors l'entreprise, évidemment, elle se défend parce qu'elle dit que les personnes concernées avaient été licenciées pour, je cite, « avoir divulgué des informations confidentielles sur un forum public ». L'IWGB a d'emblée contesté cette affirmation, indiquant que les seuls organisateurs syndicaux présents sur le serveur Discord étaient des employés externes à Rockstar. Dans le même temps, un employé a dénoncé le climat chaotique qui règne en ce moment chez Rockstar Games, notamment car les licenciements ont lieu en même temps que l'énième report de GTA 6 en 2026. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler à la fin de la chronique. Mais aussi très peu de temps après l'annonce controversée de son futur prix exorbitant de 90 €, et en même temps qu'une plainte pour harcèlement sexuel, fraude et abus de pouvoir visant Strauss-Zelnick, le boss de Take-Two Interactive, a été rendue publique. Les mobilisations continuent à Londres, Paris et Édimbourg.
Bou Rockstar, bou.
Mm-hmm.
Tu veux nous lire, tu veux
oui, parce
nous
que
parler de ce petit...
parce que sur une des photos des manifestations qu'on peut voir sur le net, on voit une employée tenir une pancarte sur laquelle elle a dessiné les étoiles d'indices de recherche dans GTA. Je ne sais pas si vous voyez.
Ah oui.
Quand on commet des méfaits dans le jeu GTA, plus on commet de méfaits, plus on a d'étoiles de recherche. C'est-à-dire que plus on a de problèmes
avec la police.
Avec la police,
au début de la police, puis jusqu'à l'armée, hein, carrément. À un moment donné, on nous envoie les tanks. Et c'est d'ailleurs un des trucs que beaucoup de gens essayent d'accomplir dans le jeu.
Oui, c'est ça. Même si ça ne fait pas forcément partie du scénario. Et sur la pancarte qu'elle tient, elle a dessiné qu'une étoile sur cinq. Alors peut-être que ça indique qu'en fait, c'est que le début de la mobilisation contre les méfaits de Tech2. Voilà, c'était le petit trait d'esprit que je voulais donner.
Pas mal.
Ouais.
Et avec plaisir.
Bonne idée.
Alors malheureusement, nous avons aussi, comme souvent avec ces violences en fait, qui ont lieu dans les communautés jeux vidéo, on a des très mauvaises nouvelles qui nous parviennent. Donc par exemple, la semaine dernière, une jeune personne de 19 ans, Ashley, aka SquidKid1111, s'est donné la mort. Et elle était fan de cosplay et s'épanouissait dans la pratique depuis longtemps. Le collectif Afrogrameuse a fait un super travail là-dessus pour parler en fait de cette personne, mais de manière plus générale, dénoncer en fait le racisme et le harcèlement dont Ashley a été victime sur les réseaux sociaux et qui serait à la cause de son suicide. En fait, les Afrogrameuses, c'est un collectif francophone.
On les a...
antiracistes, qui a déjà, qu'effectivement vous avez déjà invité dans l'émission, qui voulait rappeler justement qu'en fait tout ça, ça fait système. On n'est pas en train de parler d'une personne, on est en train de parler en fait comment la communauté cosplayer est quand même raciste, en dehors du fait d'être misogyne, etc. Mais en tout cas, elle est extrêmement raciste, que ce soit d'ailleurs cosplay de jeux vidéo, mais aussi dans tout ce qui va être culture du cosplay, donc weeb, c'est-à-dire avec manga. La culture qui vient du Japon, animé, manga. Et donc, Afrogameuse en profite pour rappeler comment ce harcèlement se concrétise. Entendre qu'on devrait se cantonner aux personnages noirs uniquement, subir des insultes racistes, grossophobes et coloristes, se faire exclure des groupes de cosplay, ne pas être pris en photo en convention, et donc, par répercussion, avoir moins d'opportunités professionnelles, et subir blackface des cosplayers blancs et bien plus encore.
Mmh. C'est-à-dire que c'est un problème quand des personnes noires vont incarner des personnages blancs, mais par contre, les personnes blanches cosplayeuses ne se permettent sans vergogne de faire des blackface en fait, et
voilà,
de s'approprier des personnages
noirs. Le visage. Et en plus de ça, c'est intéressant de dire des personnages blancs, puisque par exemple, quand il est question, si je parlais de la culture japonaise, c'est parce qu'en fait, les personnages de manga ou d'anime ne sont pas blancs. À l'inverse de ce que pensent les personnes blanches qui pratiquent le cosplay en Occident. Ces personnages ne sont pour beaucoup, en tout cas, à moins d'un contre, enfin en tout cas d'une information donnée par l'auteur ou l'autrice de l'œuvre en question, non, les personnages ne sont pas blancs puisqu'ils sont pensés en fait sur un modèle japonais, voilà, par exemple. Donc en tout cas, je vous invite à aller sur le site, sur les réseaux sociaux en fait de Afrogameuse, déjà pour suivre leur travail, mais aussi pour suivre justement ce qu'elles ont fait autour de ça, et notamment pour soutenir en fait les cosplayeuses qui noires en fait qui sont dans le milieu, Aerial Cosplay, Vinceyology, Daphne Zoo Gaming, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, il y en a beaucoup. Je vous invite quand même à aller les voir. Nous, on pourra peut-être essayer d'en partager quelques-unes, histoire quand même que vous y ayez accès.
Elles sont toutes mises à disposition par Afrogameuse sur leur page Instagram. On peut directement être en lien avec ces cosplayereuses sur leur publication.
Exactement. Et ensuite, la grosse actualité du jeu vidéo.
Qui fait controverse, l'impression.
C'était aussi la cérémonie internationale des Game Awards, qui distingue une sélection de jeux vidéo et de personnalités de l'industrie vidéoludique, et qui s'est tenue dans la nuit du jeudi 11 à vendredi 12 septembre dernier à Los Angeles.
C'est là où on va se disputer, là.
Alors... D'abord, j'aimerais féliciter Rockstar, parce que Rockstar fait un truc super, parce que vraiment, voilà, c'est pour ça que je voulais en reparler. C'est qu'ils ont eu le prix du...
Ah bon ?
ils ont reporté GTA 6 une nouvelle fois en 2026, mais ils ont remporté le prix du jeu le plus attendu pour 2026.
Non, mais trop drôle.
Mais la blague, c'est qu'ils avaient eu ce jeu en 2024 pour le jeu le plus attendu en 2025.
Mais c'est trop drôle, c'est insupportable.
Voilà, vraiment des super BG. Hein, voilà, après tout, on reporte des jeux et puis on remporte les prix qui vont avec.
Et l'année prochaine, ça sera encore heureux et l'année d'après, ça sera encore heureux.
C'est dingue. Ce sera incroyable. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'avoir un Game Award? Il y a un petit pécule qui...
Bah, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être qu'on se renseigne parce que... Mais de toute
façon, ça fait une belle presse.
Ce qui est sûr, c'est que le Game Award, ça coûte très cher d'y aller. Beaucoup de devs n'ont pas pu se rendre alors que leur jeu était nominé, pour dire à quel point, et que d'ailleurs certaines initiatives, par exemple Women in Games en France, avaient par exemple fait l'initiative de faire une cagnotte qu'ils finançaient le voyage en fait pour les devs qui pouvaient être intéressés de s'y rendre, de pouvoir enfin assister à la cérémonie. Mais par contre, Cocorico.
Cocorico, Cocorico, Cocorico.
Voilà. Claire Obscur a raflé la mise au Game Award.
Vous vous souvenez de Claire Obscur, c'est le jeu.
Un dé français.
RPG.
Merveilleux, dont j'avais fait une chronique dessus, dont je suis fan.
Tout à fait. Et qui a eu 9 prix sur 11 nominations, il me semble.
Je crois que c'est le jeu qui a été le plus nominé de l'histoire des Game Awards. C'est-à-dire qu'il y a eu le plus de sélections dans les nominations.
Oui. Et c'est pour ça que je vais mettre un peu de nuance. parce qu'il a eu le jeu de l'année. Super. Donc on peut quand même féliciter le fait que des studios indés arrivent à renouveler, qui renouvellent le jeu vidéo, remportent meilleur jeu vidéo de l'année.
C'est fou.
Tout confondu. Et ma nuance, malheureusement, elle est là. C'est que non seulement il a remporté meilleur jeu, mais il a aussi remporté meilleur jeu indé de l'année, meilleur premier jeu indé de l'année.
Oui.
Ça a invisibilisé au passage des jeux qui, j'ai trouvé cette année, avaient apporté un vent de fraîcheur tant sur l'endroit en fait, de la direction artistique, du gameplay ou du narratif dans l'industrie. Par exemple, je voulais citer le chouette Blueprints du studio California Dogubomb, un jeu puzzle qui s'allie avec le roguelike. Le Roguelite, d'ailleurs, j'en profite pour faire petite pub à notre super glossaire qui sera mis en ligne. Comme ça, tous ces petits termes obscurs du jeu vidéo qu'on n'arrête pas d'utiliser un peu comme ça parce qu'on est à fond, vous allez enfin savoir ce que ça veut dire. Voilà,
et puis ça nous évitera aussi de répéter à chaque fois.
Voilà, de répéter à chaque fois et du coup de perdre ces minutes précieuses dont on a besoin dans nos chroniques. Pour rappel, Blueprints, qui est un jeu que j'ai trouvé assez fun, moi que j'ai beaucoup apprécié jouer et qui était dans meilleur jeu indépendant et dans meilleur premier jeu de studio et qui malheureusement s'est fait rafler la mise par Claire Obscur.
Alors que pour le coup, il me semble qu'il y avait quand même moins de sous pour Blueprint. C'était plus un jeu indé, je pense, que Claire Obscur, qui au final c'était.
C'est triple A quasiment. C'est double A.
Double A mais... en tout cas, c'est pas non plus un indé quoi. Donc je croyais qu'on allait disputer, mais en fait je suis assez d'accord avec toi. J'étais un peu deg que ça soit Claire Obscur qui remporte le jeu indé. Je pensais aussi que ça serait plutôt Blueprint. Je me disais que ça serait cool que ça soit Blueprint.
Bah pareil, j'étais un peu déçue là-dessus où je me suis dit ah mince, c'est quand même vachement dommage. Ils ont déjà le jeu de l'année.
Ils ont tout remporté, indé de l'année.
Et en plus, même meilleur premier jeu de l'indé. Bon, à un moment donné, j'avais envie de dire, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu donner un petit coup de boost à d'autres jeux. Je pensais aussi, par exemple, à Hades 2, qui est la suite donc, du premier opus de Super Giant Games.
Ou Silksong aussi. Hein. Après, ils ont eu quand même un petit peu un prix, je crois, quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, cette année 2025, je trouve qu'il y a eu énormément de très bons jeux et à petite production, avec des petits studios qui sont sortis un peu de nulle part, qui ont débarqué avec des jeux un peu, qui ont un peu changé l'industrie.
Comme par exemple Megabonk, non ?
Megabonk, Arkriders aussi, hein, ouais. En soi. Arkriders
oui,
aussi,
tout à fait. En tout cas, il y a eu des propositions que j'ai trouvées qui auraient gagné à être valorisées. Mmh. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on attend de ce genre de grosse cérémonie, j'ai envie de dire.
Mais c'est vrai.
Bon,
et en même temps,
est-ce
que ça permettrait pas, comme ça, ce gros coup de filet d'un studio indé et qui propose de nouvelles choses, de un peu se faire réveiller les gros studios, les grosses prods pour un peu, je sais pas, se réveiller et se renouveler, parce que ça stagne depuis très longtemps, on en a parlé quoi.
Moi j'ai un doute parce que tu vois, par exemple, Baldur's Gate 3 avait remporté donc le prix et pareil, ça avait remis en question la manière de faire du jeu vidéo, en tout cas, la façon dont la industrie, d'un point de vue économique, fonctionnait et comment fonctionnait avec ses devs, comment elle m'a traité au travail, ça avait quand même posé des questions et Et malheureusement, on voit bien que 2 ans plus tard, on se retrouve dans la même situation, où c'est-à-dire que les gros jeux ont du mal à se renouveler. Enfin, je veux dire, clairement, ils ne nous ont pas marqué autant que ces petits jeux indépendants. Voilà, alors après, le temps est quand même très court, 2 ans,
oui,
c'est rien.
C'est ça.
Mais en tout cas, oui, ce sera que à force que ça évolue après.
Moi, j'ai l'impression que quand même, c'est court 2 ans, et j'ai l'impression que vu tout ce qui est sorti dernièrement, moi, ça me donne un petit peu un espoir, tu vois. Ark Rider, c'est un peu le même principe que Clair Obscur, il me semble, que c'est aussi une team de gens qui sont sortis d'une grosse boîte, qui ont fait un jeu un peu plus petit et qui marche extrêmement bien. Enfin, où du coup, j'ai l'impression, enfin, je me dis que ça va prendre du temps, mais j'ai la sensation, en tout cas, là, cette année 2025 nous montre un peu qu'il y a quand même eu pas mal de sorties de petits jeux qui ont eu un gros succès.
Bah, on voit bien que petite les production. Travailleurs et travailleuses, en tout cas, ont envie eux aussi,
voilà,
de faire autrement, et qu'en fait, clairement, bah, on n'aura pas ça finit peut-être par prendre de plus en plus de terrain.
C'est
quoi.
Ça, c'est ça. En tout cas, il y a eu plein de choses super cette année, et par des petites productions et des gens qui veulent juste faire leur taf bien, quoi.
Merci. Ah, t'avais un dernier truc à dire.
Je voulais juste dire une dernière chose, ce serait pour rendre un hommage à une créatrice de jeux vidéo. Le mois de novembre était le mois du Transgender Day of Remembrance. Ouais, je suis désolée, on est vraiment limite sur le temps. Jour du souvenir des personnes trans, qui a lieu chaque année le 20 novembre et à l'international. Et je voulais rendre hommage donc à la créatrice de jeux Rebecca Heinemann, qui est née le 30 octobre 1963. Elle est décédée le 17 novembre. Elle a été une pionnière dans le jeu vidéo, co-créatrice des entreprises Interplay Productions, Logicware, Contraband Entertainment et Old Skull depuis 2013, dont qu'elle dirigeait jusqu'à sa mort. Et en fait, c'est une femme, donc une femme trans, qui a été la première championne du championnat national US du jeu vidéo en 80. Et elle a travaillé lors de sa carrière sur des jeux comme Wolfenstein 3D, Doom, Baldur's Gate 2, Heroes Might and Magic 4, pour ne citer que cela. Je vous invite à aller voir sa page Wikipédia pour voir sur quoi elle a travaillé, et notamment aussi comment elle a été très importante dans la transmission en fait du jeu vidéo, et notamment auprès de personnes, auprès des femmes, auprès de personnes trans, auprès de personnes minorisées. Et je voulais, voilà, lui dire so long Rebecca, merci pour ton travail. Je trouvais important, en tout cas quand j'avais lu son histoire, je m'étais dit, moi je l'ai découvert au moment de sa mort, malheureusement, et c'est bien trop triste de découvrir en fait ses vécus minorisés uniquement quand il meurt. Voilà, et je voulais quand même lui rendre un hommage, je trouvais ça pertinent de le dire dans l'émission.
Carrément, trop bien, merci.
Merci beaucoup Myriam.
Je vais partir. On a une petite chronique à diffuser, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est toi, Myriam, qui a un épisode de... Est-ce que je peux dire épisode ? Oui, parce que c'est une série d'épisodes. Des gens qui jouent. Donc, tu as demandé de témoigner à une personne, de parler de son expérience de gamer et ou de gameuse. Voilà.
C'est ça, à partir de 4 questions. On avait déjà passé Soria en septembre ou octobre, il me semble. Et là, donc, on va entendre Jonathan, comédien et auteur, dont le premier livre, Fragment d'un dieu mourant, sortira en mars 2026 chez Actu SF.
Trop bien, merci. Moi, je m'en vais. Bisous.
As-tu un premier souvenir jeu vidéo ?
Alors, en souvenir de jeu vidéo assez marquant, je pense à Final Fantasy VII sur PlayStation 1, l'un des premiers que j'ai fait, et depuis, je ne me suis pas arrêté. Et je me souviens surtout de toutes les heures passées, rien que dans les premières heures du jeu, à les faire, les recommencer, sans jamais vraiment pouvoir y arriver parce que je devais avoir 6 ans. C'est pas mon premier jeu vidéo. J'étais vraiment dans l'ère Super Nintendo, Game Boy Color, tout ça, avec Pokémon, Mario. Mais c'est la première fois qu'un jeu m'a vraiment marqué visuellement, narrativement, et voilà, FF Forever.
Pour jouer, tu utilises quelle bécane ?
Alors pour jouer, je joue sur la PlayStation 5 actuellement. J'ai toujours été plutôt Sony depuis l'ère de la PS1, et sinon ça m'arrive de jouer sur mon ordi via Steam.
Bien que tout art soit évidemment politique, en quoi pour toi le jeu vidéo est un médium politique ?
Alors oui, pour moi, le jeu vidéo est un médium politique, et par rapport à ça, je me place surtout par rapport au fait que j'écris, que je consomme beaucoup d'histoires, que ce soit en littérature, cinéma ou jeux vidéo, justement. Et je choisis un jeu vidéo surtout par rapport à son univers, l'histoire que ça veut me raconter. Alors toutes ces questions, surtout les questions de représentation, sont vraiment très importantes pour moi. Et il y a déjà des jeux vidéo auxquels j'ai grave accroché au niveau du gameplay, de l'écriture, mais que j'ai complètement laissé tomber, en fait, au bout d'un moment, parce que c'était assez problématique. critiques sur certaines questions. Je pense notamment à Persona 5. Je suis un grand fan de Shin Megami Tensei, du travail d'Atlus et Persona. Mais en grandissant et en faisant le 5, parce que le 3 et le 4, par exemple, je les ai fait au collège, je me suis rendu compte de la problématique de certains personnages. Notamment, je pense à tous ces moments homophobes, transphobes aussi, dans le 3, je crois, mais ça a été enlevé dans le remake. Et le fait qu'on ait un personnage dans le 5 qui soit harcelé sexuellement par son prof, et il y a tout un arc narratif sur, autour de ça. Et quand finalement on combat ce prof et que le jeu vient nous dire « Oui, le sexisme, le harcèlement, c'est pas très bien », il faut que tous les personnages masculins du jeu après sexualisent ce personnage, veulent en faire leur petite amie et qu'elle-même elle soit assez sexualisée dans sa tenue dans les donjons. Et de là, je fais « Bon, j'ai l'impression que ce jeu se fout de ma gueule à me dire que les personnages combattent pour les personnes en marge de la société, qui sont discriminées par la société, parce qu'en fait, non, pas du tout, le jeu ne va jamais là-dedans. Et malgré la qualité de son histoire et de son gameplay que je reconnais, et parfois j'aimerais y revenir, ça m'a vraiment, vraiment bloqué. Et je me suis vraiment demandé à partir de là, mais quelle histoire voulaient vraiment raconter les développeurs et comment le vécu de minorités, de personnes réellement discriminées et complètement instrumentalisées par le jeu vidéo. Hashtag Final Fantasy XVI où ça parle de personnes discriminées parce qu'elles ont des pouvoirs magiques et les personnes qui n'en ont pas du coup les utilisent, que leurs pouvoirs servent à la société, par exemple pour l'eau courante, etc., je crois. Mais au bout d'un moment, on voit que c'est que des personnes blanches, etc., et que ça veut toujours parler de racisme, en fait, mais toujours en prenant appui sur des créatures imaginaires ou bien sur des personnes blanches, cisgenres. Pour moi, ça crée un problème dans comment je conçois la réalité de cette histoire et pourquoi elle m'est racontée. D'ailleurs, si le jeu vidéo n'était pas politique, on n'aurait pas autant de personnes en train de gueuler sur les forums, sur YouTube ou sur les réseaux, que le jeu vidéo devient woke. Enfin, je pense notamment là, à la sortie de Silent Hill F, où vraiment beaucoup de gens ont gueulé que c'était le Silent Hill féministe et que du coup, c'était la mort de la saga. Et voilà, c'est un peu confus, mais à chaque fois que je pense pourquoi le jeu vidéo est un médium politique, c'est par rapport à ses histoires et ses représentations et ce que ça provoque chez les gens, qu'elles soient concernées comme moi ou non concernées, et qui vont crier au wokisme à tort et à travers.
Un dernier mot pour un jeu ?
Un dernier mot pour un jeu, bah, je viens d'en parler, je vais parler un peu de Silent Hill F que je viens de terminer. Je l'ai pris Day One parce que je suis un grand fan de la licence depuis des années. Et bon, TMTC que Silent Hill, ça s'était vraiment cassé la gueule depuis très très longtemps. Et le retour du remake du 2 avait fait un grand bien à la licence. Et là, le Silent Hill F confirme que c'est bien de retour et c'était vraiment super. J'ai adoré l'ambiance, l'histoire. Après, il y a quelques mécaniques de gameplay que j'ai trouvé un peu bordélique, au point de parfois avoir l'impression de jouer un beat them all. Mais sinon, oui, c'était vraiment, vraiment de qualité.
Et voilà, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci Myriam.
Ben oui, merci à toi Adri, merci à Alex, merci à Manny Léoé d'avoir été là, merci à Marie pour la technique encore une fois.
Merci beaucoup Marie.
Et on se retrouve le 2 janvier.
Le 9 janvier. Le samedi 9 janvier. Et à bientôt, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Spectre Média, sur Deezer et sur C'est Tout. Deezer et Spectre Média, je crois
c'est
que c'est
bien.
Tout. C'est déjà super.
C'est super.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.